Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce Webex Focus consacré à l'actualité IFRS dans le cadre de vos clôtures semestrielles. Alors, je suis ravi de vous retrouver, de passer cette heure et demie avec vous qui nous permettra de vous tenir au courant des dernières actualités normatives et réglementaires et également de partager avec vous quelques sujets d'actualité. Alors, notre agenda sera le suivant. On commencera par un premier point sur l'actualité normative, dans lequel nous aborderons les nouveaux textes applicables en 2022, notamment l'amendement IS-37, le traitement des coûts SAS. Nous commenterons ensuite les dernières décisions de l'IFRIC et on terminera par les nouvelles décisions de l'ESMA parues en mai dernier. La seconde partie sera consacrée au thème d'actualité, dans laquelle nous verrons les conséquences dans les comptes de l'invasion de l'Ukraine, les situations d'hyperinflation au 30 juin 2022, puis un focus sur la réappréciation des durées de location. Et le point suivant sera consacré au climat, dans les comptes, dans lequel nous présenterons un retour d'expérience sur les publications annuelles 2021, tout en donnant le point de vue de l'AMF. On fera également un point sur les projets de l'IASB, notamment les appels de commentaires en cours, et nous finirons avec une partie dédiée à l'actualité réglementaire, en l'occurrence le règlement SF, avec un retour d'expérience sur les publications 2021 et les prochaines étapes. Alors, je suis Olivier Scherrer, associé PwC, leader technique IFRS pour PwC France. Et pour évoquer tous ces sujets, si on peut repartir un slide en arrière, j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Cyril Canoni, associé spécialiste instruments financiers, Laure Chatillon, associé PwC de notre département évaluation, Frédéric Allègre, Bénédicte Guémard, Elisa Terrache, tous trois directeurs et directrices au sein de notre département technique IFRS, Céline Majoubi, senior manager également au sein de notre département. Et comme invité par vidéo, nous aurons le plaisir d'écouter Marie Seller, directrice de la direction des affaires comptables. Vous pouvez vous poser vos questions tout au long de la conférence via la fenêtre qui est située à droite de votre écran. Et on aura un peu de temps à la fin pour répondre à vos questions. Alors, je vous propose de commencer sans plus attendre par notre première partie dédiée à l'actualité normative avec les nouveaux textes applicables cette année. Alors, bonne nouvelle, pas de texte majeur cette année, mais plutôt des amendements qui apportent des précisions ou des clarifications, mais qui dans certains cas pourraient changer des pratiques. Bénédicte, peux-tu nous présenter les nouveautés ?
Oui, merci Olivier, bonjour à tous. Alors, tous les nouveaux textes sont affichés sur ce slide, ils sont peu nombreux. En effet, le plus impactant est sans doute l'amendement IS-37 sur les contrats déficitaires, car il va pouvoir entraîner des provisions plus élevées et, le cas échéant, de nouvelles provisions. Alors, on va y revenir en détail. Les autres amendements sont mineurs ou étroits. À noter toutefois, qui concerne pas mal de monde, un amendement IFRS 9 qui est venu préciser la nature des frais à inclure dans le test de 10%. L'amendement qui reprend une décision de l'IFRIC précise que seuls les honoraires versés ou reçus entre l'entité et le prêteur sont à intégrer dans les flux de trésorerie du test de 10%. Sur le slide suivant, trois textes applicables par anticipation. En plus d'IFRS 17 sur les contrats d'assurance, on a l'amendement d'IS 1 qui apporte des précisions sur les informations à fournir dans les états financiers, sur les méthodes comptables significatives et qui ajoute une démarche d'analyse du caractère significatif matériel de l'information à fournir. Également, l'amendement IS 8 qui a pour objectif de faciliter la distinction entre changement de méthode comptable d'une part et changement d'estimation comptable d'autre part. Pour les textes qui ne sont pas encore adoptés mais qu'il est néanmoins possible d'appliquer par anticipation, il faut quand même noter que l'amendement IS 1 sur le classement d'un passif au bilan en courant ou en non courant, bien que publié, est en rediscussion. Et l'ISB devrait reporter la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2024. Donc, on ne vous propose pas de l'adopter par anticipation. C'est notre recommandation. Enfin, non encore applicable, l'amendement d'IS 12 qui va rendre obligatoire la comptabilisation d'actifs et passifs d'impôts différés sur les contrats de location notamment.
Merci Bénédicte pour ce rapide tour d'horizon. Alors, passons maintenant à l'amendement IS 37 sur les contrats onéreux. L'amendement IS 37 est donc désormais applicable obligatoirement à tous les contrats déficitaires, en cours d'exécution au 1er janvier 2022. Il concerne l'ensemble des contrats, en pratique principalement les contrats clients et fournisseurs, puisque l'essentiel des contrats de location font désormais l'objet d'un test de dépréciation selon IAS 36. La question de la présence d'un contrat client déficitaire se pose en particulier lorsqu'on constate une augmentation des coûts, par exemple du coût des matières premières, comme cela est le cas aujourd'hui. Alors Bénédicte, quelles sont les conséquences de l'amendement ?
Alors, on va faire un peu de pédagogie et pour bien comprendre, on va revenir sur le principe de constitution des provisions sur les contrats déficitaires. Donc, pour rappel, un contrat est déficitaire lorsque les coûts inévitables pour satisfaire les obligations du contrat deviennent supérieurs aux avantages économiques à recevoir. Le montant de la provision doit correspondre au coût net le plus faible entre les pertes liées à l'exécution du contrat et les pénalités qui seraient encourues en cas de résiliation. Alors, c'est pour clarifier la notion de coût d'exécution du contrat et réduire la diversité observée par l'ISB que cet amendement a été publié. Avant l'amendement, il était possible pour les coûts d'exécution du contrat de ne retenir que les seuls coûts incrémentaux. Avec l'amendement, celui-ci vient fermer cette option et oblige à retenir non seulement les coûts incrémentaux, mais également une allocation des autres coûts directement rattachable à l'exécution du contrat, à savoir une quote-part de coûts de ressources utilisés en commun par ce contrat et d'autres contrats. Donc ça, c'est le wording de l'ISB. On a l'habitude d'appeler ce type de coût une quote-part de frais indirects. Alors, en d'autres termes, il faut inclure une allocation raisonnable à des frais généraux de production et des coûts des ressources communes au contrat et à d'autres contrats. Mécaniquement, donc, si l'on inclut davantage de coûts dans l'évaluation des contrats déficitaires, on peut s'attendre à avoir une augmentation des provisions existantes en valeur et potentiellement de nouvelles provisions à comptabiliser pour des contrats qui deviendraient déficitaires.
Merci Bénédicte. Alors voyons maintenant à travers un exemple comment les nouvelles dispositions de l'amendement s'insèrent dans un cas pratique de détermination d'une provision. Alors j'espère que vous voyez à l'écran le tableau avec les chiffres. Au 30 juin 2022, la société BTP est engagée contractuellement auprès de son client. Le budget révisé du contrat fait apparaître une perte de 40 millions après prise en compte de l'allocation des autres coûts dont on vient de parler. La valeur nette comptable des actifs dédiés au contrat s'élève à 20 millions et le contrat prévoit des pénalités de résiliation du contrat de 15 millions. Alors le premier réflexe serait de dire on va provisionner 40 millions. Alors Bénédicte, est-ce que c'est aussi simple ?
Eh bien non, ce n'est pas aussi simple, Olivier. Alors, pour rappel, avant toute évaluation de contrat déficitaire selon IAS 37, il faut au préalable mener un test de dépréciation selon IAS 36. Et là, on applique les règles habituelles de déclenchement d'un test de dépréciation. Ici, on doit déprécier la totalité de la valeur nette comptable des actifs dédiés pour un montant de 20 millions. La deuxième étape va consister sur le slide suivant, à déterminer les coûts d'exécution. C'est cette deuxième étape que l'amendement vient modifier. Il n'est désormais donc, je le disais, plus possible de retenir une approche d'évaluation de la provision uniquement sur la base des coûts incrémentaux. On voit dans cet exemple qu'avec l'approche des seuls coûts incrémentaux, le contrat aurait été considéré comme bénéficiaire de 10 et aucune provision n'aurait été constatée. Avec l'amendement, il convient de rajouter une allocation des frais généraux et également de la quote-part d'amortissement des autres actifs utilisés pour le contrat. Cela alourdit mécaniquement l'assiette des coûts d'exécution et donc le contrat affiche désormais une perte de 20 millions. Enfin, dernière étape, ça consiste à comparer la perte liée à l'exécution avec la pénalité encourue en cas de résiliation. La pénalité de résiliation étant plus faible qu'à particulier que la perte, BTP constatera donc une provision pour contrat déficitaire de 15 millions. Et ce, donc, même si le management a l'intention d'exécuter le contrat jusqu'au bout, puisqu'on doit bien prendre le plus faible des deux, le moins coûteux. Alors, à noter qu'avant l'amendement, il n'y aurait pas eu du tout de provision, puisque en l'absence de prise en compte des autres coûts directement attachables au contrat, le résultat du contrat était positif de 10 millions d'euros.
Merci Bénédicte. Alors, pour ce qui est des modalités particulières de transition, il s'agit d'ajuster les capitaux propres d'ouverture au 1er janvier 2022 et les périodes comparatives n'ont pas besoin d'être retraitées. Nous en avons fini avec cet amendement IAS 37. Passons maintenant à notre deuxième thème technique, les coûts de configuration et de customisation d'un logiciel en mode SaaS. Nous vous avions déjà longuement parlé lors de notre journée arrêtée des comptes 2021 de la décision de l'IFRIC qui a été publiée en mars 2021 dans sa version définitive et qui est relative aux coûts de configuration et de customisation des logiciels en mode SaaS. Nous avons voulu revenir dessus car on a pu observer que beaucoup d'entreprises françaises, pour ne pas dire la majorité, n'avaient pas encore mis en œuvre cette décision de l'IFRIC dans leur clôture au 31 décembre 2021. Entre parenthèses, c'est un peu une exception française par rapport au reste du monde. Une première raison pour ces délais est peut-être liée à la complexité de la mise en œuvre opérationnelle. Comme toute décision de l'IFRIC, son adoption est rétrospective. Ça nécessite d'analyser les coûts historiques à un niveau de granularité qui est assez fin et qui n'est pas disponible dans les systèmes de reporting comptable. Et ce qui nécessite aussi l'input des fonctions IT. Or, il y a un vrai challenge à trouver un langage commun entre fonctions IT et fonctions comptables sur ce type de sujet. Une seconde raison qui explique les délais de mise en œuvre est liée à la complexité des jugements qui sont nécessaires. Et justement, il nous a paru utile de revenir sur des points de jugement qui, avec le recul de l'expérience, se sont avérés être clairement les plus sensibles. Alors, pour évoquer ces jugements sensibles, Frédéric, peux-tu nous rappeler le contexte et les enjeux ?
Oui, Olivier. Alors, pour rappel, il y avait d'abord eu une première décision de l'IFRIC en 2019 qui avait traité des coûts d'accès aux logiciels en mode SaaS, c'est-à-dire les logiciels qui sont hébergés sur l'infrastructure du fournisseur et dont l'entité cliente ne peut pas prendre possession, et qui avait conclu qu'un contrat de SaaS est un contrat de service qui ne peut donc pas donner lieu à reconnaissance d'une immobilisation, puisque la ressource logicielle sous-jacente est contrôlée par le fournisseur et non pas par le client. Et ensuite, on a eu une deuxième décision de l'IFRIC en mars 2021 qui porte sur les coûts d'implémentation de SaaS et plus précisément les coûts de customisation et de configuration. Et qui nous dit que puisque l'entité ne contrôle pas le logiciel sous-jacent, alors ces coûts de customisation et de configuration de ce logiciel ne sont pas immobilisables non plus. Et donc, en termes d'enjeux, c'est une décision qui a un impact sur la présentation du compte de résultat, en particulier l'EBITDA, sur la présentation des flux de trésorerie, avec des coûts à mettre en flux investing et non pas en flux operating, mais également un impact en termes d'accélération du timing de reconnaissance des charges, et cela d'une façon qui a beaucoup surpris les entreprises.
Alors effectivement, cela peut surprendre. Les coûts d'implémentation de SaaS peuvent représenter des montants qui sont significatifs et non récurrents, qui à l'évidence génèrent des avantages économiques, mais la décision IFRIC interdit de les immobiliser. Alors ça peut sembler paradoxal que d'un côté, les coûts de customisation et de configuration qui se rapportent à des softwares on-premise soient immobilisables, et que d'un autre côté, ce qui concerne des softwares en SaaS ne le soit pas. En plus, c'est aussi une divergence avec les US GAAP. Alors pour autant, faut-il en conclure, dans le contexte de projet de solution SaaS, que tous les coûts d'implémentation devront immédiatement être comptabilisés en charge, Frédéric?
Alors, la réponse est non, pas systématiquement. Cela dépend d'un certain nombre de jugements. Alors, vous voyez sur ce tableau s'afficher, sur ce tableau d'analyse, les trois issues possibles en bas du tableau. Et ainsi que les différentes questions, ainsi que l'arbre des questions à se poser pour arriver, pour déterminer le traitement comptable et pour savoir sur quelle issue on arrive. Alors, on ne va pas redescendre tout le raisonnement. Il a été développé dans notre alerte technique du mois dernier et sera disponible la semaine prochaine sur le Navis. Mais nous allons essayer plutôt de nous focaliser sur les éléments les plus discriminants. Alors, justement, là, en bas à droite, première issue possible, la comptabilisation d'une charge immédiate lorsque les travaux sont effectués. Je dirais que c'est la réponse par défaut. Et typiquement, s'il faut donner un exemple, cela s'applique au coût de paramétrage des solutions en mode SaaS. Mais vous voyez, plus à gauche, qu'il y a deux cas particuliers où l'on va devoir étaler la charge. Alors, passons-les en revue successivement. Donc, seconde issue possible, elle correspond à une charge constatée d'avance que l'on va étaler sur la durée du contrat de service. Mais pour atterrir dans cette case-là, il y a deux conditions qui doivent être remplies, énoncées par l'IFREC. Hein. Premièrement, il faut que les deux prestations, c'est-à-dire l'implémentation initiale et puis l'accès continu au SaaS, soient sous la responsabilité d'un fournisseur unique. Ou bien, s'il y a deux fournisseurs différents, il faut que l'un soit le sous-traitant de l'autre. Et deuxième condition, il faut que les deux prestations, implémentation initiale et service d'accès au SaaS, soient considérées comme non distinctes au sens d'IFRS 15. Alors, en pratique, il faut reconnaître que ce cas se rencontre assez rarement. Cela n'arrive que quand l'éditeur de SaaS lui-même va modifier le code source du logiciel en mode SaaS pour l'adapter aux demandes du client. Et donc, dans ce cas, les coûts de customisation seront traités en charge constatée d'avance et étalés. Mais encore une fois, ces cas d'étalement restent rares parce que, dans notre expérience, dans la plupart des cas, les travaux de customisation et de configuration sont effectués par des prestataires tiers, des intégrateurs de systèmes qui sont des sous-traitants du client et non pas des sous-traitants des éditeurs de SaaS. Et donc, la première des deux conditions qu'on évoquait tout à l'heure pour étaler n'est pas remplie. Alors, il nous reste une troisième voie pour capitaliser, c'est lorsque les travaux d'implémentation du SaaS se traduisent par des développements de code logiciel additionnel qui qualifient comme une immobilisation corporelle. Cette possibilité, elle est évoquée explicitement dans la décision de l'IFREC, qui note qu'il peut y avoir création de code additionnel et qu'il convient dans ce cas d'apprécier si les critères de reconnaissance de l'incorporel sont bien remplis, c'est-à-dire si le code est identifiable, séparable du SaaS et contrôlé par l'entité. Et dans notre expérience, ces cas peuvent se produire assez fréquemment.
Alors Frédéric, puisque ces cas ne sont pas anecdotiques, est-ce que tu peux nous donner un exemple illustratif ?
Oui, alors prenons le cas assez classique finalement d'un projet d'implémentation de SaaS dans lequel l'entité engage un intégrateur tiers, indépendant du fournisseur de SaaS, pour développer des modules apportant des fonctionnalités additionnelles. Typiquement, ces modules sont conçus spécifiquement pour les besoins d'entité cliente. Ils sont développés au moyen d'outils de programmation qui sont mis à disposition par le fournisseur de SaaS et qui sont déployés dans l'environnement du SaaS. Il se peut, dans ces cas-là, que ces modules qualifient comme une immobilisation incorporelle. En effet, d'abord, ces modules spécifiques ne modifient pas le code source du SaaS qui reste standardisé et séparé. Et donc, en ce sens, ces modules sont bien une ressource séparable du SaaS. Ensuite, c'est bien l'entité qui détermine discrétionnairement quand, comment et pourquoi modifier ou mettre à jour ces modules en fonction de ses besoins propres. Et donc, en ce sens, l'entité dirige l'utilisation des modules, ce qui est un attribut du contrôle. Et enfin, si l'entité a la propriété intellectuelle de ces développements de ces modules, eh bien, l'éditeur de SaaS ne peut pas les mettre à disposition d'autres clients. Et donc, cela remplit la définition d'une ressource contrôlée au sens d'IAS 38, c'est-à-dire que l'entité a le pouvoir d'obtenir les avantages économiques de la ressource et de restreindre l'accès des tiers à ces avantages. Et donc, on voit dans cet exemple que l'on coche toutes les cases pour reconnaître un actif incorporel au titre des coûts de développement de ces modules additionnels, même si ces développements sont connexes à un projet de SaaS. Alors, je dirais à contrario, c'est l'objet de la deuxième partie de la slide, il est important de noter que d'autres éléments ne sont pas discriminants, ne sont pas bloquants. D'une part, dans cet exemple, on observe que les modules sont déployés dans l'environnement du SaaS et donc l'entité n'a pas la faculté de les rapatrier sur l'infrastructure de son choix. Mais pour autant, cette absence de faculté de prendre possession du code n'empêche pas nécessairement de démontrer le contrôle d'avoir une immobilisation si on peut arriver à la démonstration du contrôle par d'autres voies. Et d'autre part, nous sommes bien conscients que ces modules ne fonctionnent qu'avec le SaaS de cet éditeur et ces modules n'ont aucune utilité en dehors de ce contrat de SaaS, mais cela n'est pas bloquant non plus pour la démonstration du contrôle. Cela affecte en revanche la détermination de la durée de vie de l'incorporel qu'on va reconnaître au titre de ces modules. Donc voilà, donc je dirais que pour conclure, dans notre expérience, les zones de jugement les plus critiques se situent au niveau de la séparation entre, d'une part, les coûts de configuration et de customisation stricto sensu, qui sont des services dans le champ de la décision de l'IFRIC, et d'autre part, des coûts de développement spécifiques qui aboutissent à la création d'un code additionnel qualifiant comme un incorporel. Voilà, alors il existe d'autres zones de jugement complexes qui sont récapitulées sur la slide précédente et qui sont développées dans notre Memento IFRS.
Merci Frédéric. Alors je retiens l'importance du jugement fondé sur une analyse fine de la nature des dépenses. En conclusion, je rappelle que la mise en œuvre d'une décision IFRIC doit être faite dans un délai dit raisonnable, on a timely basis, hein, selon, pour reprendre les termes du process handbook de l'ISB. Cela fait maintenant 15 mois que la décision définitive a été publiée. Il est donc attendu, et l'AMF l'a rappelé, que la décision soit mise en œuvre rapidement par les entreprises françaises. Nous passons maintenant à notre partie sur les principales décisions de l'IFRIC. Sachez que ce tableau des décisions définitives depuis janvier 2022 n'est pas à jour de la dernière réunion du comité d'interprétation qui s'est tenue hier et avant-hier, pour lequel le compte-rendu de l'IFRIC n'est pas encore disponible. Alors, premier sujet, TLTRO 3. Alors, les TLTRO, ce sont des opérations de financement à des conditions favorables auprès de la Banque Centrale Européenne, dont les caractéristiques soulèvent quelques difficultés comptables. Alors, la décision de l'IFRIC vient préciser, premièrement, qu'il est possible de modifier le TIE suite au changement de taux décidé par la BCE. Deuxièmement, qu'il est possible de reconnaître une subvention sous IAS 20 et de modifier le montant de cette subvention même après sa comptabilisation initiale. Et troisièmement, qu'en l'absence de reconnaissance d'une subvention, les changements de taux liés à l'atteinte ou pas des objectifs de prêt fixés par la BCE doivent être comptabilisés selon la méthode du catch-up. Passons maintenant à la décision relative au classement d'un dépôt à vue qui est soumis à certaines restrictions d'utilisation. Cyril, est-ce que tu peux nous rappeler le contexte et la réponse de l'IFRIC?
Oui, bien sûr, Olivier. Bonjour à tous. Donc, il s'agissait en l'occurrence de dépôts à vue, donc exigibles à tout moment, déposés auprès d'une banque. Et l'entité avait par ailleurs une obligation contractuelle auprès d'un tiers différent de la banque de maintenir un certain niveau de trésorerie. Et il y avait une autre condition sur l'utilisation de ce dépôt. La question qui était posée, c'était de dire... Du fait de cette restriction, est-ce que ces montants peuvent néanmoins être classés à l'actif en cash et cash equivalent? Alors, la décision de l'IFRIC a confirmé que pour la présentation au bilan et pour la présentation du tableau de flux de trésorerie, ces dépôts devaient bien être maintenus dans le poste cash and cash equivalent. Alors pourquoi? Parce que il s'agit de cash, puisque les montants restent formellement exigibles à vue. La restriction dont il est fait état n'est pas opposable à la banque, et donc d'un point de vue totalement contractuel, l'entité conserve la possibilité de retirer ces montants. L'IFRIC a précisé qu'il pouvait être pertinent, notamment lorsque les montants sont significatifs, de désagréger ces montants pour les isoler. Ils ont aussi précisé qu'un classement en courant n'est pas possible. Et du coup, on pourrait avoir potentiellement ces dépôts classés en non courant, ce qui n'est pas du cash et cash equivalent placé en eau courant, c'est pas fréquent. Et du coup, pour redonner un petit peu de sens à tout cela, bien évidemment, des informations annexes seront nécessaires pour préciser, bien entendu, la nature et l'étendue de ces restrictions. Et notamment, ces informations pourraient tout à fait figurer opportunément dans le tableau sur les informations sur la liquidité.
Merci Cyril. Alors, je crois qu'on peut noter un paradoxe, hein. Les restrictions n'empêchent pas de classer un dépôt à vue en cash, alors que les mêmes restrictions, si elles s'appliquaient à un dépôt à terme, empêcheraient de le classer en cash équivalente. Bon, cela est dû au fait que dans la norme, les définitions de cash et de cash équivalente ne sont pas alignées. Vous voyez maintenant apparaître à l'écran le tableau récapitulatif des décisions provisoires du comité d'interprétation avant prise en compte de la dernière réunion. Alors, on voudrait d'abord attirer votre attention sur la décision provisoire relative au règlement d'une créance commerciale par virement électronique. Il s'agit en apparence d'une question qui peut paraître anodine, sur la date à laquelle il faut décomptabiliser la créance et comptabiliser la trésorerie reçue. Mais on s'aperçoit, à travers les lettres de commentaires qui ont été reçues par l'IFRIC, que la décision, si elle est finalisée, pourrait avoir des répercussions étendues et complexes. Les implications pourraient aller bien au-delà du cas particulier qui a été traité par l'IFRIC et impacter d'autres types de paiements en transit, comme les paiements par chèque ou par carte bancaire, et même des règlements aux fournisseurs, donc côté passif. Cela conduirait à s'interroger sur chaque type de suspens figurant dans les rapprochements bancaires, et cela pourrait avoir des impacts opérationnels significatifs en nécessitant de modifier des processus bien établis portant sur des flux volumineux. Donc, il est important de suivre la finalisation de cette décision d'IFRIC et d'en apprécier toutes les implications potentielles. Passons maintenant à une décision de l'IFRIC uniquement provisoire à ce stade, mais qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Elle résulte d'une saisine effectuée par l'ESMA, donc saisine de l'IFRIC, mais par l'ESMA, relative aux modalités de comptabilisation des abandons de loyer consentis par le bailleur. Alors, Lisa, est-ce que tu peux nous préciser de quoi il s'agit?
Oui, bonjour à tous. Dans la question soulevée par l'ESMA auprès de l'IFRIC, un bailleur octroie à un preneur un abandon de loyer qui porte à la fois sur des périodes passées et déjà facturées et sur des périodes futures non encore dues. Aucun autre changement n'est apporté au contrat de location qui est classé comme un contrat de location simple par le bailleur. Dans ce contexte, l'ESMA a posé les deux questions suivantes. La première est de savoir si le bailleur doit prendre en compte ou non l'abandon de loyer envisagé dans la détermination de la perte de crédit attendue. Et la deuxième est relative à la comptabilisation de l'abandon lui-même. Plus précisément, le preneur et le bailleur doivent-ils appliquer les dispositions de décomptabilisation d'IFRS 9 ou celles de modification d'un contrat d'IFRS 16? La question côté preneur est bien entendu posée en dehors des cas très limités d'application de l'amendement Covid d'IFRS 16. Alors, côté preneur, et même si cela n'est pas repris dans l'IFRIC Update, le staff a reconnu l'existence d'un conflit de normes entre IFRS 9 et IFRS 16. Il a donc suggéré que ce point soit traité par l'ISP dans le cadre d'un amendement limité d'IFRS 16 ou d'un annual improvement. En revanche, côté bailleur, la décision provisoire précise qu'avant l'abandon, le bailleur doit prendre en compte ses prévisions d'abandon de loyer dans l'estimation des pertes de crédit attendues en vertu d'IFRS 9. Et à la date de l'abandon, pour les loyers des périodes passées, le bailleur doit appliquer les dispositions de décomptabilisation d'IFRS 9, ce qui se traduit par la constatation d'une charge au compte de résultat à hauteur du montant abandonné qui n'aurait pas fait l'objet d'une dépréciation pour perte de crédit attendue. Et pour les loyers des périodes futures, le bailleur doit appliquer la norme IFRS 16 et constater ainsi une modification de contrat, ce qui se traduit par la comptabilisation d'un nouveau contrat de location sans impact résultat. Cette décision provisoire, si elle était confirmée, remettrait en cause certaines pratiques actuelles. En ce qui concerne l'estimation des pertes de crédit attendues d'abord, et lorsque l'abandon n'est pas lié à une augmentation du risque de défaut du preneur, il y a actuellement une diversité de pratiques. Certains considèrent qu'il n'a pas à être pris en compte avant l'octroi effectif, car non lié à un événement de crédit. D'autres considèrent au contraire que s'agissant d'un shortfall en termes de cash flow à venir, il doit être pris en compte dans l'estimation des pertes de crédit attendues. À la date d'abandon, en ce qui concerne les loyers des périodes passées uniquement, le bailleur a actuellement un choix de méthode comptable entre l'application d'IFRS 16 en matière de modification de contrat et IFRS 9 en matière de décomptabilisation de créances.
Alors, notez que cette décision provisoire a fait l'objet de 24 lettres de commentaires qui lui sont majoritairement opposées, principalement pour deux raisons. Première raison, comme on vient de l'évoquer, en l'absence de difficultés financières du preneur, il est considéré par certains que les prévisions d'abandon de loyer n'ont pas à être prises en compte dans les pertes de crédit attendues. Et deuxième raison, par ailleurs, la décision provisoire ni le conflit de normes entre IFRS 9 et IFRS 16 pour les loyers des périodes passées, alors qu'il peut être considéré que ce conflit existe côté bailleur au même titre que côté preneur. Donc, évolution à suivre. Passons maintenant à notre prochain sujet, les nouvelles décisions de l'ESMA. En mai, l'ESMA a publié son 26e batch de décisions qui comprend les 11 décisions que vous voyez à l'écran. Alors, nous allons nous concentrer sur deux décisions qui peuvent nécessiter une adaptation de vos méthodologies et de nouvelles informations à obtenir pour effectuer vos analyses. Alors, premier sujet, Frédéric, est-ce que tu peux faire un point sur la décision relative à la valeur nette de réalisation des stocks ?
Oui, Olivier. Alors, comme vous le savez, pour les besoins de la dépréciation des inventaires, on utilise la notion de valeur nette de réalisation, qui est le prix de vente moins les coûts nécessaires à la réalisation de la vente. Alors, l'IFRIC avait publié l'année dernière une décision pour expliquer que les coûts nécessaires à la vente ne se limitent pas aux seuls coûts incrémentaux. Mais l'IFRIC n'avait pas précisé davantage la nature des autres coûts qui sont à inclure et s'était contenté d'inviter au jugement. Et ce qui est intéressant ici, c'est que cette décision d'un régulateur qui a été publiée par l'ESMA vient illustrer avant l'heure quels peuvent être ces autres coûts à retenir. Alors, au cas particulier, c'était une société qui avait engagé une campagne promotionnelle spécifique pour écouler certains produits obsolètes. Et la décision du régulateur a rappelé que les coûts nécessaires à la vente ne se limitent pas aux seuls coûts incrémentaux de la campagne promotionnelle particulière, mais qu'ils doivent inclure tous les coûts de marketing et de distribution qui sont nécessaires à la vente de l'ensemble des stocks existants à la clôture.
Voilà. Merci Frédéric. Alors, intéressant de noter que le régulateur n'a pas attendu l'IFRIC pour faire prévaloir une conception assez extensive des coûts à déduire d'une valeur nette de réalisation, puisque l'IFRIC ne l'avait pas précisé, laissant une place au jugement sur ce point. Alors, passons maintenant à une autre décision de l'ESMA qui s'est prononcée sur un thème dont nous avons déjà beaucoup parlé, celui de la réalisation des thèses de dépréciation d'une UGT contenant des droits d'utilisation, donc l'interconnexion IFRS 16 et IS36. Alors, Lisa, peux-tu nous rappeler comment mener les thèses de dépréciation IS36 d'UGT contenant des droits d'utilisation ?
Avec IFRS 16, la valeur comptable de l'UGT testée augmente de fait de la valeur comptable du droit d'utilisation. La dette de loyer étant considérée comme un passif de financement, elle n'est pas déduite de cette valeur comptable. Pour le calcul de la valeur d'utilité, comparé aux flux de trésorerie utilisés sous IAS 17, les flux sont augmentés des flux de loyer inclus dans la détermination de la dette de loyer, donc notamment les loyers fixes. Et en revanche, les loyers non inclus dans la dette viennent bien diminuer les flux de trésorerie. Les CAPEX de renouvellement qui doivent prendre en compte un flux notionnel correspondant au renouvellement des contrats de location doivent également venir en réduction des flux. Cette approche est connue sous le nom d'approche 1. Cela étant, certains considèrent que même si la dette de loyer est du financement, elle est indissociable du droit d'utilisation et donc doit être déduite de la valeur comptable de l'UGT testée. Dans ce cas, et c'est l'approche dite 2, selon la norme IAS 36, la valeur comptable de la dette de loyer est déduite à la fois de la valeur comptable testée et de la valeur d'utilité calculée selon l'approche 1. Autrement dit, la prise en compte de la dette de loyer dans le test de dépréciation ne change pas son résultat et le headroom dans les approches 1 ou 2 est identique. Pour les premières années de transition, un aménagement provisoire avait été accepté en France et c'était l'approche qu'on appelait 3 qui n'était que transitoire. Cette approche 3 consistait à retenir comme valeur comptable celle testée selon l'approche 2, donc augmentée du droit d'utilisation et diminuée de la valeur comptable de la dette de loyer. Et pour le calcul de la valeur d'utilité, les flux utilisés sous l'ancienne norme IAS 17, à savoir tous les flux de loyer, viennent en déduction des flux de trésorerie à actualiser. Cette approche conduit mécaniquement à un headroom supérieur à celui des autres approches, y compris à celui qui était calculé selon l'ancienne norme IAS 17. Et pour mémoire, elle avait été autorisée en France compte tenu des difficultés pratiques posées par l'exercice pour les premières années de transition. En effet, L'UAC post-IFRS 16 n'était pas disponible. Il était compliqué pour les entreprises d'identifier les flux de loyers inclus et ceux exclus de la dette de loyer. Et les groupes n'avaient que peu de recul quant à l'estimation des flux de renouvellement des CAPEX.
Merci pour ces rappels. Alors, quelle a été maintenant la décision de l'ESMA en la matière, Lisa ?
Donc, c'est une décision qui a été publiée dans le 26e batch, comme tu l'as dit, en mai. Dans sa décision, et hormis le fait que le taux d'actualisation utilisé pour le calcul de la valeur d'utilité doit prendre en compte l'impact de l'application d'IFRS 16, l'ESMA a conclu qu'il n'était pas possible de retenir une approche consistant à comparer la valeur comptable de l'UGT déterminant en incluant le droit d'utilisation et diminué de la valeur comptable de la dette de loyer correspondante, comme c'est le cas dans les approches 2 et 3, avec la valeur d'utilité de l'UGT calculée en prenant en compte des flux de trésorerie réduits du montant des loyers à payer, actualisé à un WACC pré-IFRS 16, ce qui est fait dans l'approche 3. Donc, par cette décision, l'ESMA rend inapplicable l'approche 3 transitoire. À notre avis, cette approche ne peut en effet être utilisée que comme une mesure de simplification et uniquement en tant qu'approximation des approches 1 et 2 dans la mesure où elle n'a pas d'effet significatif. Et bien sûr, une extrême vigilance doit être portée en cas de faible headroom, d'absence de headroom ou de situation de dépréciation, puisque comme on l'a dit, cette mesure majore mécaniquement le headroom.
Donc les groupes doivent donc poursuivre l'adaptation de leur système de prévision afin de pouvoir réaliser les tests de dépréciation conformément à ce qui est requis par la norme IAS 36, c'est-à-dire selon les approches 1 ou 2. Alors, avant de traiter des thèmes d'actualité technique, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions, un certain nombre d'entre vous le font déjà, donc on les prendra à la fin. Passons au premier thème, et pas des moindres, les problématiques comptables posées par le conflit dramatique opposant la Russie et l'Ukraine. Alors, les groupes concernés ne sont pas uniquement ceux qui ont des expositions directes en Russie, en Biélorussie et en Ukraine, à travers des filiales ou des relations d'affaires. Les autres groupes peuvent être affectés indirectement du fait des conséquences du conflit sur l'économie mondiale. Parmi ces effets, on peut citer l'inflation, l'augmentation des prix des matières premières, la perturbation des chaînes d'approvisionnement ou encore les perspectives de croissance en berne dans certaines zones géographiques. Alors, Selim, quels sont les principaux enjeux comptables associés de manière directe ou indirecte à ce conflit ?
Oui, bonjour. Nous avons récapitulé ces problématiques sur ce slide par thème. Donc, on a les impacts sur les actifs non financiers, sur les instruments financiers, sur les obligations non financières et sur d'autres aspects. Bien entendu, la liste affichée n'est pas exhaustive. Dans la suite de la présentation, nous développerons les problématiques qui apparaissent en gras. Donc, d'abord, on va parler de la dépréciation des actifs non financiers. Si un immeuble ou une usine ont été détruits lors des bombardements en Ukraine, il faudra bien entendu les décomptabiliser.
Alors, donc, hormis ce cas, Selim, il faut se poser la question de l'existence d'un indice de perte de valeur. La question se pose pour tous les actifs non financiers non courants, non seulement le bout d'huile, mais également les actifs corporels, incorporels ou les participations mises en équivalence. Alors, l'OR, en tant qu'évaluatrice, quels sont vos constats et recommandations dans ce contexte spécifique?
Alors, bonjour à tous. Alors, pour les actifs situés dans les zones directement concernées, il est vraisemblable que de tels indices existent, hein, notamment du fait d'un arrêt ou d'un ralentissement de l'activité ou de la dégradation d'actifs. Pour les actifs qui ne sont pas situés dans les zones directement concernées, le contexte macroéconomique doit nous pousser à nous interroger. La hausse des prix des matières premières, les perturbations de la chaîne de production, les incertitudes affectant globalement la consommation ou les investissements vont peser sur les évolutions futures, même si leur impact est encore incertain. Alors, l'incertitude et les risques augmentant, on note, comme vous pouvez le voir à l'écran, une augmentation parallèle du taux de retour attendu par les investisseurs sur le marché. Ainsi, entre fin décembre, alors c'est vraiment le bout de la courbe, et fin mai, le couple taux sans risque plus prime de risque de marché a pris environ un point, ce qui se traduit par une augmentation à peu près équivalente des taux d'actualisation. Donc, dans le cas où la marge du test de dépréciation était peu significative, cette augmentation de taux peut directement constituer un indice de perte de valeur. Dans le cas inverse, c'est-à-dire avec une marge de test de dépréciation plus significative, y compris avec des analyses, y compris avec les analyses de sensibilité au taux, il faut s'interroger si le contexte macroéconomique actuel n'a pas d'autres impacts induits qui peuvent constituer un indice de perte de valeur. Alors, en cas d'existence d'un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est mené. Il en découle que les goodwill et les actifs à durée de vie indéterminée peuvent devoir être testés au 30 juin, quand bien même un test de dépréciation annuel est prévu en fin d'année. Et rappelons que les tests de dépréciation se font à plusieurs niveaux. D'abord au niveau des actifs individuels, ensuite au niveau des UGT auxquels ils sont affectés. C'est l'approche bottom-up. Ainsi, un actif peut être déprécié même s'il fait partie d'un regroupement d'UGT plus large qui, lui, ne sera pas déprécié.
Merci Laure. Alors, comment calculer la valeur recouvrable dans ce contexte qui est plein d'incertitudes?
Alors, avant de parler des incertitudes, rappelons que le conflit est un événement majeur qui nécessitera la mise à jour des plans d'affaires et des taux d'actualisation qui étaient utilisés dans les tests précédents. Cette mise à jour est forcément un exercice complexe. Alors, l'incertitude peut être reflétée soit dans les taux d'actualisation, y compris parfois à travers l'inclusion d'une prime de risque, ou soit dans les flux de trésorerie actualisés, notamment à travers la pondération de plusieurs scénarios possibles. Pour les actifs directement, situés dans les zones directement concernées, il peut être très difficile de refléter l'incertitude dans les taux d'actualisation. Donc, c'est pour cela que nous préconisons d'opter de le faire dans les flux de trésorerie, en mettant en œuvre plusieurs scénarios et en les pondérant. Alors, en tout état de cause, il convient de veiller à la cohérence entre le taux d'actualisation d'un côté et les flux utilisés de l'autre, de manière à éviter le double comptage des risques dans la valeur recouvrable calculée. Et les pas de sensibilité vont vraisemblablement devoir être élargis.
Merci Laure pour ces précisions. Alors, une attention particulière devrait être portée sur tous les aspects qui ont trait donc à ces sujets d'impairment et puis de notamment des informations, ce qu'on va donner, ce qu'on va fournir dans les annexes pour expliquer toutes les hypothèses qui ont été retenues. Alors maintenant, passons au sujet suivant. Célim.
Oui, donc déjà, d'abord un petit rappel, le contrôle sur une activité nécessite d'avoir cumulativement le pouvoir sur cette activité, l'exposition à ses rendements variables et la capacité d'exercer son pouvoir pour faire varier ses rendements. Cette analyse est menée en continu sur la base de l'évolution de tous les faits et circonstances. Le contexte actuel peut conduire les groupes à se poser la question du contrôle et de leurs opérations en Russie et en Ukraine. Donc, les jugements significatifs sur cette appréciation doivent être communiqués en annexe. Bon. Certains groupes se demandent si les restrictions et les sanctions envers la Russie conduisent à la perte de contrôle des filiales russes. L'analyse dépendra bien entendu des faits et circonstances, mais on souhaite attirer votre attention sur certains points d'analyse. Tout d'abord, la décision de retirer ses administrateurs du board d'une filiale ne veut pas forcément dire que le groupe n'est pas en capacité d'en nommer des nouveaux. Autrement dit, le groupe peut conserver son pouvoir sur la filiale malgré cette décision. Un autre point d'attention est relatif à l'exposition au rendement variable. La difficulté à rapatrier les fonds en Russie ou bien l'incertitude sur les taux de change ne sont pas des éléments qui remettent en cause l'exposition d'un groupe au rendement variable d'une entité. Un autre cas de figure, c'est quand ça concerne des groupes qui subissent des pressions pour se retirer du marché russe, mais qui souhaitent quand même revenir à ce marché si la situation s'améliore. Donc, un mécanisme envisagé consiste à vendre la filiale au management local, souvent avec un crédit vendeur, avec une option d'achat exerçable dans le futur. Donc, de prime abord, il peut apparaître que l'activité cédée est désormais dirigée par les acquéreurs. Cependant, il convient de se demander si ces acquéreurs ne sont pas des mandataires de fait, agissant encore pour le compte du groupe. Si c'est le cas, il ne s'agit pas d'une cession et le groupe continuera à contrôler l'activité. La démarche d'analyse pour savoir si on est en contrôle de fait ou pas est décrite dans la norme. Le groupe doit s'interroger sur ses relations avec ses acquéreurs, par exemple si les titres font l'objet d'un nantissement ou bien si la cession se fait par un crédit vendeur, ce qui est souvent le cas. Donc ce mécanisme fait, donc ça c'est par rapport à l'analyse de mandataire de fait, ce mécanisme fait intervenir une option d'achat qui est un droit de vote potentiel qui doit être pris en compte dans l'appréciation de contrôle, mais encore faut-il, compte tenu du contexte de sanctions, que le groupe soit en capacité pratique de l'exercer en temps voulu.
Merci Selim. Alors, il ne s'agit pas des uniques facteurs à considérer en matière du contrôle, ni des uniques situations qui peuvent exister. L'analyse du contrôle doit être menée au cas par cas, en fonction des faits et des circonstances. Alors, est-ce que tu peux nous indiquer ce qu'il se passe si on perd le contrôle d'une filiale?
Très bien. En cas de cession, en cas de perte de contrôle sans cession, la filiale est déconsolidée avec la constatation d'un résultat correspondant à la différence entre la juste valeur de la filiale et la valeur comptable des actifs et des passifs déconsolidés. Les réserves de change sont également recyclées en résultat à ce moment-là. Après la perte de contrôle, la comptabilisation des titres conservés de l'entité dépend de si le groupe conserve une influence notable sur elle ou non. Si l'influence notable est conservée, les titres sont mis en équivalence, sinon ils sont portés à la juste valeur par résultat.
Merci Selim. Alors, si jamais le groupe reprend le contrôle de l'entité, un nouveau PPA sera nécessaire en application d'IFRS 3, parce qu'il y aura une nouvelle prise de contrôle, avec la mise à la juste valeur des actifs et des passifs et la constatation d'un goodwill à la date de reprise de contrôle. Donc, la constatation d'une perte de contrôle n'est pas anodine. Il ne s'agit pas de reprendre les valeurs comptables des actifs et des passifs au moment de leur décomptabilisation lors de la perte de contrôle. L'arrêt des activités et la sortie de la Russie peuvent poser des questions relatives au classement des actifs concernés en actifs détenus en vue de la vente, au bilan, mais également de la qualification en activité abandonnée au compte de résultat, donc toutes les questions qui ont trait à l'application d'IFRS 5. Quels sont les points de vigilance dans le contexte actuel, Selim?
Bon, rappelons que le classement IFRS 5 au bilan suppose que les actifs soient cédés, qu'ils soient disponibles à la vente immédiate dans leur état actuel et que la vente soit hautement probable dans un délai de 12 mois suivant le classement. Autrement dit, une simple décision d'arrêter l'activité sans plan de cession formalisé ne conduira pas à son classement sur une ligne séparée du bilan. Notons que l'appréciation de l'existence des conditions de classement peut être compliquée dans le contexte des sanctions, notamment du fait des incertitudes portant sur la réalisation des cessions en Russie. Pour les filiales concernées, même si le classement IFRS 5 au bilan n'est pas réalisé, une volonté de se désengager du pays est un indice de perte de valeur qui nécessite de réaliser un test de dépréciation IAS 36 comme décrit plus tôt. Rappelons enfin que les réserves de change ne sont recyclées qu'au moment de la cession et non au moment du classement sous IFRS 5 au bilan. En ce qui concerne le classement du résultat des activités sur une ligne séparée du compte de résultat, donc, ceci intervient lorsque les activités répondent à la définition d'activité abandonnée. Ceci n'est possible que lorsque le classement IFRS 5 au bilan a été réalisé ou si l'abandon effectif des activités est intervenu au cours de la période. Seules les zones géographiques où les activités principales peuvent prétendre à ce classement d'activité abandonnée, donc c'est une zone de jugement.
Merci Selim, on fait tous ces rappels parce que ce sont des questions qui nous sont posées. Les principes d'application d'IFRS 5 restent les mêmes, hein, donc d'où l'importance et l'utilité de les rappeler. Le contexte a également des implications comptables dans le domaine des instruments financiers. Cyril, est-ce que tu peux nous rappeler les points principaux?
Oui, bien sûr. Donc, trois points principaux. Le premier, la dépréciation des actifs financiers. Alors, pour les corporates, il s'agit pour l'essentiel des créances commerciales, soit lorsqu'elles sont directement sur des émetteurs des pays concernés, donc Russie du fait des sanctions et Ukraine du fait de la situation d'invasion, mais aussi bien évidemment potentiellement tout client qui est potentiellement impacté lui-même indirectement par cette invasion. Et donc il s'agit, le modèle IFRS 9 prévoit de comptabiliser des pertes de crédit attendues dès l'octroi des créances. Et donc, il s'agit de mettre à jour les paramètres de risque, probabilité de défaillance et pertes en cas de défaut pour tenir compte effectivement de ces nouveaux événements. Alors pour les rares corporates qui détiendraient des obligations d'État russe libellées en devises étrangères, à notre avis, ces obligations doivent être considérées comme dépréciées au 30 juin 2022. Et pour les assureurs qui participent à cette webcast et donc qui appliquent toujours IAS 39, cela signifie que toutes les moins-values latentes qui sont nos CI doivent être intégralement recyclées en résultat. Pour les corporates qui appliquent IFRS 9, le fait d'être en stage 3 indique là aussi très vraisemblablement que l'essentiel de la moins-value latente devra être constaté par résultat. Il convient bien évidemment de bien tenir compte des expositions brutes. On ne peut netter un actif et un passif que si on détient un accord de compensation qui sera effectivement effectif en cas de défaillance de la contrepartie. Et donc c'est seulement dans ces cas-là qu'on peut tenir compte des obligations pour venir réduire l'exposition et donc le montant de la provision. Enfin, deuxième aspect, les comptabilités de couverture. Lorsqu'il s'agit de comptabilité de couverture de cash flow hedge, que l'entité couvre des flux futurs de transactions, il faut s'assurer que du fait de la crise, ces flux restent hautement probables. S'ils ne sont plus hautement probables, la comptabilité de couverture doit être arrêtée et les montants qui seront différés dans les OCI ne seront à recycler dans le compte de résultat que quand effectivement la transaction ne sera plus considérée comme probable, donc dès que c'est inférieur à 50%. Tant que c'est supérieur à 50%, on maintient en OCI et on ne recyclera dans le résultat que quand les flux couverts impacteront le compte de résultat. Et troisième point de sensibilisation, bien évidemment, compte tenu du contexte, des informations en annexe sont à prévoir concernant tous les événements de défaut ou de breach sur sa propre dette, les traitements comptables retenus en cas de renégociation de dette, extinction versus modification. Et puis, bien évidemment, une information particulière et une attention particulière sur les expositions aux risques financiers, les risques de crédit, les risques de liquidité, les risques de change devront faire l'objet d'une attention particulière, mais également les expositions aux risques de prix des matières premières, compte tenu de leurs fluctuations importantes, devront également porter une attention particulière.
Merci Cyril. Alors Selim, quels sont les autres points d'attention qu'il paraît nécessaire d'évoquer?
Bon, on a choisi de parler de quatre points. Le premier concerne la continuité d'exploitation. Donc, cette dernière doit être appréciée au regard de l'ensemble des éléments de contexte, des sanctions, les perturbations des circuits d'approvisionnement, les difficultés d'accès aux clients ou encore le ralentissement de l'activité de manière générale. L'appréciation se fait au niveau du groupe et non au niveau des filiales. Donc, une filiale peut être hors continuité d'exploitation, mais pas la maison mère. Dans ce cas, les comptes consolidés du groupe sont préparés selon les principes IFRS. Il sera nécessaire de retraiter les comptes de la filiale si ces derniers avaient été arrêtés en valeur liquidative, par exemple. Un deuxième point d'attention concerne le change. Donc, du fait de la forte volatilité des taux de change, pour convertir les transactions au compte de résultat, il peut être pertinent d'utiliser des taux spécifiques aux dates de transaction ou du moins des taux moyens sur des périodes qui sont plus resserrées que le semestre. Un autre point d'attention sur le change, c'est la suspension de la cotation des taux de change du rouble par la BCE ou d'autres banques. On peut se poser la question de quel taux utiliser dans ce cas. Pour l'instant, le taux officiel de la Banque centrale russe ne semble pas être très éloigné des taux réellement observés. Cependant, la situation peut évoluer et elle doit être monitorée. En tout état de cause, si l'exposition au change est significative, il conviendra d'indiquer en annexe les taux de change qui ont été retenus. Troisième point d'attention, ce sont les assurances contractées par les groupes. Donc, les indemnités d'assurance sont souvent comptabilisées postérieurement au sinistre qu'elles viennent couvrir, puisqu'elles ne doivent être constatées que lorsque leur recouvrement est quasiment certain. Leur comptabilisation nécessite que l'assureur accepte la réclamation et qu'on soit certain que l'assureur pourra honorer son engagement. Un dernier point concerne la présentation du compte de résultat. Donc, la présentation du compte de résultat de la période doit être cohérente et permanente par rapport aux périodes précédentes. En particulier, il ne convient pas de présenter une ligne distincte qui isolerait les effets du conflit en cours. Pour les groupes ayant comme pratique de distinguer un résultat courant et un résultat non courant, le classement de certains éléments dans cette catégorie doit être cohérent avec les pratiques passées.
Merci Selim. Alors je rappelle à ce titre que les guidances publiées par l'AMF, l'ANC, la CNCC et d'autres dans le contexte de la crise Covid à de nombreux égards encore utiles et pertinentes dans le contexte de la crise Ukraine-Russie, notamment sur cette notion de distinction courant-non courant dans le compte de résultat. Alors pour finir sur ce thème, soulignons que l'information financière fait l'objet d'une attention particulière des régulateurs et en mai dernier, l'ESMA a publié un public statement relatif à la préparation des comptes semestriels en IFRS. Outre les points d'attention particuliers qu'on a déjà abordés, la publication souligne l'importance de communiquer sur les principaux risques et incertitudes auxquels les émetteurs sont confrontés. La publication rappelle la nécessité de fournir une information utile pour les utilisateurs, qui reflète les impacts actuels et attendus de l'invasion de l'Ukraine sur le bilan, la performance et les flux de trésorerie des émetteurs. Les émetteurs sont encouragés à regrouper cette information dans une note unique, donc un petit peu comme ce que l'on retrouvait, les recommandations qui étaient faites concernant la crise Covid, donc une note unique dans les états financiers, ou à inclure une note référençant les différentes notes adressant les impacts de la guerre sur les comptes. Les émetteurs ayant des opérations dans les marchés concernés ou qui ont des expositions significatives aux matières premières affectées par la situation, telles que l'énergie ou les matières agricoles, devraient expliquer ces impacts ou expliquer clairement pourquoi la situation en cours n'a pas eu d'impact matériel sur leurs états financiers malgré l'exposition à ces risques. Et enfin, l'ESMA rappelle aux émetteurs la nécessité de communiquer dès que possible toute information pertinente sur l'impact de la guerre, sur leurs fondamentaux, leurs perspectives, leur situation financière, conformément aux obligations de transparence imposées par le règlement abus de marché. Alors, pour en savoir plus, vous trouverez dans ce slide les liens vers des publications relatives à ce thème. Alors, on passe maintenant, donc que vous retrouvez des éléments d'information qui sont que vous pouvez retrouver donc soit sur notre site, soit sur le site de l'ESMA ou de l'AMF. Alors passons maintenant à un autre thème technique d'actualité qui fait l'objet d'un traitement comptable spécifique, celui des économies en situation d'hyperinflation. Selim, dans un premier temps, peux-tu nous donner la liste des pays qualifiés d'hyperinflationnistes au 30 juin 2022?
Donc, au 30 juin 2022, 9 pays de la liste des pays en situation d'hyperinflation l'étaient déjà l'année dernière, donc au 31 décembre. C'est le cas, par exemple, de l'Argentine ou encore du Venezuela. Un pays supplémentaire a rejoint la liste au 30 juin, c'est la Turquie, on va en parler. On a 6 pays qui sont actuellement qui ne sont pas encore hyperinflationnistes, mais qui sont dans notre liste de surveillance. Donc, concernant la Turquie, l'inflation cumulée sur 3 ans a dépassé 100% au cours du premier semestre 2022, donc sur 3 ans. Ceci, conjugué à d'autres indicateurs qualitatifs, indique que la monnaie locale est entrée en situation d'hyperinflation au cours de la période. Donc, dès lors, la norme IAS 29 doit être appliquée aux comptes des entités qui ont la livre turque comme monnaie fonctionnelle pour les comptes clôturés au 30 juin 2022 et ultérieurement.
Alors, pour les groupes ayant des opérations dans des pays hyperinflationnistes, hein, Selim, est-ce que tu peux nous rappeler les modalités d'application d'IS 29 qui sont quand même un peu complexes et qu'on n'applique pas tous les jours? Donc, des questions se posent à chaque fois qu'un nouveau pays devient hyperinflationniste.
Très bien. Donc, schématiquement, donc d'abord, lors de la première application d'IS 29, les actifs et passifs non monétaires sont retraités dans le bilan d'ouverture de la période de la filiale. donc par exemple au 1er janvier 2022. Donc, le retraitement vise à refléter l'évolution de l'indice des prix entre leur date d'entrée dans le patrimoine et la date d'ouverture de la période. La contrepartie de ce retraitement est comptabilisée au choix en capitaux propres ou en écart de change en OCI. Dans ce dernier cas, le retraitement pourra être recyclé en résultat lors de la cession de la filiale. Il s'agit d'un choix de méthode comptable qu'il convient de préciser dans les notes. À la clôture de la période, donc par exemple là, on va être au 30 juin 2022, les actifs et passifs non monétaires, les produits et charges, y compris les OCI, de la filiale sont retraités des effets de l'inflation de la période. La contrepartie de ce retraitement est comptabilisée au compte de résultat sur une ligne distincte. Après avoir calculé l'effet de l'hyperinflation de la période, le groupe convertit le bilan et le compte de résultat de la filiale au taux de clôture. L'effet de l'hyperinflation en devise de présentation doit peut-être soit présenté en écart de change, soit dans une autre catégorie de réserve dans les capitaux propres. Les comparatifs du groupe ne sont pas retraités, mais ceci serait différent si le groupe lui-même établissait des comptes dans une monnaie hyperinflationniste.
Merci Selim. Alors, autre thème qui revient régulièrement dans les débats depuis la transition IFRS 16, le changement des durées des contrats de location. Plus de 3 ans après la date de première application d'IFRS 16 et avec le passage du temps, certains groupes peuvent souhaiter augmenter la durée de leur contrat en prenant en compte, par exemple, des options de renouvellement non retenues dans les durées initiales. Alors, Lisa, est-ce que tu peux nous rappeler dans quel cas un preneur doit réapprécier la durée d'un contrat de location?
Hormis certains cas de modification de contrat et les cas de changement de la période non résiliable qu'on ne va pas discuter ici, un preneur ne doit réestimer la durée d'un contrat qu'en cas d'événement ou de changement de circonstances significatif sous le contrôle du preneur et qui affecte le caractère raisonnablement certain ou non d'exercice d'une option de renouvellement ou de non-exercice d'une option de résiliation. Il n'est donc pas possible, par exemple, de réviser librement la durée de location, de réapprécier la durée uniquement sur la base des intentions du management, d'aligner la durée de location avec l'horizon de projection du business plan, ou encore d'allonger chaque année d'un an la durée d'un contrat, donc de le faire de manière revolving.
Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets?
On va commencer par le cas d'un preneur qui a élaboré son business plan avec une hypothèse implicite de maintien dans les locaux. L'approbation du business plan par l'organe de gouvernance est bien sûr un événement sous le contrôle du preneur. Mais le simple fait que le business plan soit construit avec une hypothèse implicite ne constitue pas un événement ou un changement de circonstances significatif, même si la probabilité de demeurer dans les locaux augmente avec le temps écoulé. Dans ce cas, le preneur ne doit pas réapprécier la durée du contrat de location. En revanche, dans l'exemple 2, la décision de rester dans les locaux a été spécifiquement discutée en détail et soulignée comme étant une hypothèse clé du business plan. Il s'agit donc d'un événement significatif et dans ce cas, le preneur réappréciera la durée du contrat de location en prenant en compte l'option de renouvellement initialement ignorée et le droit d'utilisation et la dette de loyer seront ajustés en conséquence. Il en est de même dans l'exemple 3. La décision d'investissement significatif indissociable des locaux loués et approuvée par la gouvernance est un changement de circonstances significatives sous le contrôle du preneur et il affecte le caractère raisonnablement certain de l'exercice de l'option. La durée du contrat devra donc être réestimée. À l'inverse, dans l'exemple 4, l'évolution des loyers de marché n'est évidemment pas sous le contrôle du preneur et même si cela peut évidemment modifier les intentions du management, ces circonstances ne peuvent pas à elles seules entraîner une réappréciation de la durée.
Merci Lisa. Alors je retiens que les révisions de durée ne peuvent pas être faites de manière libre et ne pas identifier correctement les cas de réappréciation de ces durées peut créer des à-coups du niveau des actifs et des dettes de loyer des groupes. Il est donc fortement recommandé, de développer ou renforcer les procédures internes qui permettent l'identification d'effets générateurs pour la réappréciation des durées des contrats, en se basant sur les indicateurs qui sont fournis par la norme, dans le paragraphe B37 d'IFRS 16, mais également sur tout autre indicateur pertinent pour le groupe. Deuxièmement, à ce titre, une segmentation des portefeuilles de biens loués en fonction d'indicateurs clés, comme la rentabilité, la nature clé ou non de l'emplacement, peut être utile dans certains secteurs, par exemple la distribution. Et troisièmement, bien évidemment, renforcer les interactions entre les directions comptables et financières et opérationnelles, qui permet d'identifier au plus tôt les changements de circonstances et permet donc d'avoir des durées les plus cohérentes possibles avec la stratégie du groupe. Alors, passons maintenant à la partie climat dans les comptes. Ce thème a été, on peut le dire, la grande nouveauté pour la clôture de 2021. Précisons encore une fois que les enjeux liés au climat concernent à la fois les états financiers, mais aussi ce qui est produit en dehors des comptes, qu'on appelle maintenant le reporting de durabilité. Nous n'aborderons pas aujourd'hui l'aspect extra-financier, car il fera l'objet de notre prochain rendez-vous en présentiel du reporting de durabilité, l'épisode 13, qui se tient le 22 juin. Bon, les places sont limitées, mais comme pour tous nos rendez-vous, le replay sera disponible sur pwc.com. Revenons dans les comptes avec, pour commencer, un rappel du contexte à la clôture 2021. Pour produire les comptes au 31 décembre 2021, les groupes ont pu s'appuyer sur un certain nombre de publications de la profession comptable, ISB pour les IFRS, mais également le FASB pour les US GAAP, ainsi que l'IAASB en ce qui concerne les sujets d'audit. Dans ces publications, les normalisateurs ont rappelé que s'il n'y a pas de normes spécifiques climat, les risques climatiques doivent déjà être pris en compte dans l'application des normes actuelles. Le sujet était également une priorité côté régulateur, l'AMF et l'ESMA ayant publié leurs recommandations pour la DC 2021 sur ce sujet et qui sont rappelées de façon synthétique sur ce slide. Passons maintenant à ce qui a été réellement fait dans les comptes 2021. En mai dernier, on avait présenté lors d'une Webex, c'était l'épisode 12 du reporting de durabilité, le résultat complet de notre benchmark sur les publications 2021, à la fois dans les comptes et dans le reporting extra-financier au 31 décembre 2021. Alors, on a jugé pertinent de vous en relayer certains points saillants aujourd'hui, mais rappelez-vous que cet épisode est disponible en intégralité sur pwc.com. Le benchmark repose sur l'analyse des publications annuelles de 70 groupes du CAC 40 et de l'ESTX 50, permettant de couvrir des groupes français, mais aussi quelques groupes européens de toutes industries. À noter que nous n'avons pas la totalité des publications des groupes de ces indices, du fait des clôtures décalées de certains groupes. Bénédicte, je te passe la parole pour un résumé des impacts présentés dans les états financiers.
Oui, alors nous commençons avec un chiffre de synthèse qui matérialise bien le fait que les groupes ont compris que les investisseurs et les régulateurs avaient des attentes fortes en matière de disclosure. On a 74%, donc soit trois quarts des groupes observés, qui ont présenté des informations relatives à l'environnement 2021 dans leurs états financiers, alors que l'année précédente, ce ratio représentait seulement un tiers d'entre eux. Alors, on parle ici d'informations qui sont relatives à l'environnement au sens large. Ça recouvre des mentions faites sur l'identification des risques climatiques, des mentions d'objectifs de réduction des émissions de CO2, mais également des informations liées à leurs obligations d'acquérir des quotas de CO2 ou encore leurs obligations gouvernementales. Alors, toutefois, derrière ce ratio qui semble très positif, se cache toutefois une hétérogénéité dans le niveau d'informations fournies par les groupes. Sur le slide suivant, nous avons splitté les 74% entre l'indice français du CAC 40 et l'indice européen ESTX 50 en excluant les groupes français. On remarque que la progression sur ces deux indices est la même, le nombre de groupes ayant joué le jeu a pour chacun doublé entre 2020 et 2021. On note toutefois une avance des groupes français sur ceux du reste de l'Europe, avec 87% des groupes français ayant renseigné des informations relatives à l'environnement, contre seulement 57% pour nos voisins. Si on se concentre sur la présentation de la prise en compte générale des risques climatiques dans les comptes et ses impacts dans ces impacts, les groupes observés ont majoritairement présenté ces informations dans les jugements et estimations, ou dans les principes des méthodes comptables, en détaillant ensuite certaines informations dans les notes dédiées des états financiers sur le goodwill, les immobilisations ou autres en fonction des impacts identifiés. Autre information intéressante, 7 groupes présentent une note dédiée aux risques climatiques dans les notes des états financiers en reprenant l'ensemble des informations relatives à ce sujet. Si on regarde plus en détail, c'est près de la moitié des groupes du panel qui indiquent avoir pris en compte les changements climatiques dans les hypothèses utilisées pour les tests de dépréciation. Et vous pouvez le voir sur le graphe de gauche, c'est majoritairement dans les hypothèses de flux trésor et futur que les groupes ont préféré intégrer les impacts liés au climat. Notamment, et là on le voit dans le graphe de droite, avec la prise en compte des risques physiques et de transition en rouge et les conséquences de leur objectif de neutralité carbone présenté en orange. Sur le slide suivant, le chiffre est un peu plus faible avec tout de même un tiers des groupes du panel qui ont déclaré avoir pris en compte leur objectif de réduction de CO2 ou leur stratégie de transition énergétique pour la détermination des durées de vie des immobilisations. Parmi eux, c'est essentiellement les groupes du secteur Energies and Utilities, automobiles et distribution de biens de consommation qui sont concernés. Ces groupes ont toutefois tous conclu à l'absence d'impact significatif. Plus enfin, donc dernier slide de nos constats, plus de la moitié des groupes observés ont présenté d'autres informations sur les enjeux liés au climat. Il s'agit notamment de provisions, des plans de rémunération, des opérations de financement divers ou encore la mise à jour de la partie gestion des risques financiers.
Est-ce que l'on peut, enfin la question maintenant qu'on se pose, c'est est-ce que la situation s'est améliorée du point de vue de l'AMF? C'est la question que l'on n'a pas posée à Marie Seller et dont vous allez pouvoir entendre l'enregistrement.
Après, effectivement, nous aussi, c'est un sujet qu'on est en train de regarder dans le cadre de nos revues, où bien sûr, un certain nombre de nos revues, l'approche par les risques qu'on a, on fait qu'on a choisi un centre de société qui était particulièrement exposé à ces sujets, où on essaie de comprendre, bien sûr, l'information qui a été donnée, mais au-delà de ça, les analyses qui ont pu être faites et les réflexions qu'ont pu avoir les sociétés. On se félicite aussi du benchmark qui a été montré, où on voit que finalement, il y a quand même eu une avancée. Ce qu'on avait toujours dit en tant que régulateur, c'est que c'était une première étape l'année dernière, qu'il fallait engager les réflexions, mais qu'elle prendrait du temps. Donc, je pense qu'effectivement, cette première étape a eu lieu. Il y a un début de choses qui ont été données dans les annexes. On se félicite aussi, bien sûr, que les sociétés françaises soient peut-être plus en avance que les autres sociétés européennes. Donc ça, je pense qu'on peut s'en féliciter et on peut considérer que c'est une bonne chose. Le fait que les sociétés, effectivement, pour beaucoup, mentionnent le sujet et indiquent qu'elles l'ont pris en compte. Donc ça nous semble important. Et effectivement, qui était une demande forte des investisseurs d'être déjà sûrs, en fait, que c'était pris en compte dans la manière dont ils faisaient leur compte. Après, c'est vrai qu'on reste un peu sur sa fin, ou des fois, au-delà de ça, il y a quand même toujours une hétérogénéité très grande qui peut bien sûr s'expliquer par des localisations, des secteurs, etc., mais qu'on ne comprend pas toujours. Et effectivement, souvent, des explications qui peut-être ne rentrent pas tellement en profondeur sur le détail des hypothèses qui ont pu être prises, les sensibilités et les sujets développés. On parle beaucoup des tests de dépréciation et des durées de vie des immobilisations, mais on peut se dire qu'il y a aussi, d'autres choses. Donc, pour conclure, je pense que c'est une première étape, mais effectivement, les choses vont continuer à avancer. Et je pense qu'effectivement, c'est un dialogue entre les sociétés, les auditeurs, les régulateurs, les investisseurs qui va permettre au sujet, finalement, de continuer à avancer.
Voilà, donc il y a du bon, mais on comprend que des efforts restent à faire. Alors, on a pris connaissance d'une note de revue que l'AMF a adressée à un groupe coté en France sur ses comptes 2021. En lien avec les enjeux climatiques. Dans les slides suivants, et après avoir obtenu l'accord de Marie Seller, on partage avec vous les commentaires qui ont été exprimés auprès de cet émetteur. Bien entendu, l'AMF adapte la profondeur des questions et explications qu'elle demande aux sociétés en fonction de ses propres enjeux. Par exemple, dans certains cas, l'AMF fait le lien avec les engagements qui sont pris. Et en toute logique, les questions posées sont celles que peuvent se poser tous lecteurs des états financiers. Alors, Bénédicte, peux-tu nous présenter les principaux points d'attention?
Oui, alors c'est essentiellement sur la partie actifs et tests de dépréciation de la lettre de revue. Alors, l'AMF demande notamment au groupe, à ce groupe du CAC 40, là, qui a indiqué que les coûts opérationnels et les investissements étaient pris en compte dans la durée de ses plans d'affaires. Elle demande des informations sur les impacts attendus à long terme sur son modèle d'affaires, l'analyse effectuée, l'évaluation et la prise en compte le cas échéant, et les raisons pour lesquelles le groupe n'a pas mené d'analyse de sensibilité au regard d'hypothèses liées au changement climatique. Sur le slide suivant, l'AMF souhaite savoir pourquoi le groupe a choisi de ne pas communiquer le ou les impacts chiffrés de ses initiatives sur sa performance. Et elle lui demande de lui transmettre le montant ou les fourchettes d'impact identifiées sur la durée du business plan ainsi qu'à long terme. Alors, concernant ce... Pardon. Olivier, je te repasse la parole.
Oui, alors, donc il est intéressant de noter que le normalisateur américain, la SEC, a publié un draft des futures normes de reporting de durabilité sur les aspects du climat. Ces normes concernent majoritairement l'extra-financier, mais contiennent également pour partie des dispositions qui vont dans les comptes. Alors, ces normes de la SEC demandent expressément de fournir le montant capitalisé et dépensé des événements climatiques, ainsi que des coûts d'adaptation, des plans de transition. Voilà, pour plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez consulter des publications américaines dans notre site PwC Viewpoint. Voilà, Bénédicte, je te repasse la parole.
Oui, alors enfin, donc une question a été posée de façon plus générale concerne l'éventuelle existence d'analyses complémentaires qui auraient été menées par le groupe sur d'autres postes des états financiers, comme par exemple les stocks, les impôts différés, etc. Et si oui, l'AMF demande de lui en préciser les contours et le cas échéant, de lui indiquer pourquoi le groupe a choisi de ne pas en parler dans ses états financiers.
Alors, merci Bénédicte. Alors, on a également demandé à Marie Seller quelles étaient les recommandations de l'AMF pour les comptes semestriels 2022. Donc, nous écoutons sa réponse.
Après, pour les comptes semestriels, on n'a pas de recommandations spécifiques qui vont sortir. Après, je pense que c'est quand même des sujets sur lesquels on invite les sociétés à continuer forcément leur réflexion et pas attendre la clôture par rapport aux questions que pourraient avoir les investisseurs, par rapport à eux, ce qu'elles ont pu publier, par rapport à ce que leur père aurait pu voir, par rapport effectivement à ce que vous pouvez présenter aujourd'hui au niveau presse sur le benchmark. Donc, c'est vrai que c'est une réflexion qui, à notre sens, doit continuer et pas forcément attendre la clôture pour effectivement préparer tout ça et voir ce qui serait de leur côté pertinent de pouvoir donner. Et nous, de notre côté, effectivement, on publiera au troisième trimestre, comme habituellement, les recommandations qu'on pourra avoir sur ces sujets-là.
Voilà, pour conclure sur cette partie, quelques points à retenir. Un, la majorité des groupes ont joué le jeu et intégré une mention spécifique au climat dans les comptes 2021. Deux, bien que la plupart des groupes aient indiqué avoir analysé les impacts sur les comptes des enjeux liés au climat, aucun n'a conclu en 2021 que leur compte était significativement impacté. Trois, les notes restent dans l'ensemble peu détaillées. Et quatre, même si les efforts sont notables, des améliorations restent à apporter. C'est donc dès à présent que les groupes doivent y travailler, poursuivre leurs efforts en prévision de la clôture au 31 décembre 2022. Là, on vous a relayé quelques extraits de l'intervention de Marie Seller, mais on avait dans cette même conférence une intervention d'une analyste investisseur qui donne également sa perspective. Donc, c'est ce que vous pouvez écouter dans le replay complet qui est à votre disposition. Je rappelle enfin que fournir une information de qualité passe par la mise en œuvre d'une démarche globale de l'entreprise avec la mise en place d'une gouvernance climat adaptée et l'implication de toutes les parties prenantes au sein de l'organisation. Deuxièmement, la définition d'une stratégie climat à l'appui d'une analyse des facteurs de risque et d'opportunité. Et troisièmement, la vérification de la cohérence entre la stratégie et les informations financières et extra-financières. Et je pense que dans ces grandes lignes-là sont exposées beaucoup plus en détail dans les projets de normes de durabilité qui sont actuellement en gestation au niveau européen. Passons maintenant au projet en cours de l'ISB. Fait intéressant, il n'y a aucune consultation de l'ISB en juin 2022 pour laquelle la période de commentaires soit encore ouverte. À l'inverse, deux projets de l'ISSB. C'est la grande sœur de l'ISB, mais côté reporting de durabilité. L'un sur les disclosures générales de durabilité et l'autre sur les disclosures spécifiques au climat, qui sont actuellement ouverts à commentaires, et ce jusqu'à fin juillet 2022. L'objectif de l'ISB étant de ne pas surcharger les parties prenantes de consultation et de leur permettre de répondre aux questions posées par ces deux projets en priorité. Alors, dans son compte-rendu de la consultation sur son futur agenda 2022-2026, qui sera publié en juillet. L'ISB devrait tout d'abord confirmer son ambition de mener à terme en priorité les projets qui sont actuellement en cours. Parmi ces projets en cours, il y a 3 projets à gauche, sur le slide suivant, voilà, pour lesquels la prochaine étape est la publication d'une norme ou d'un amendement. On peut citer la nouvelle norme relative aux états financiers primaires, qui développe des dispositions pour la présentation des états financiers de base, et plus particulièrement la présentation du compte de résultat. Parmi les autres projets en cours, on peut relever un certain nombre d'exposés sondages apparaître sur les instruments financiers, ainsi que sur plusieurs projets pour lesquels l'ISB doit trancher sur leur avancement. En ce qui concerne le projet Goodwill et Impermante, qui a fait l'objet d'un papier de discussion publié en 2020, l'analyse des commentaires sur les modèles de dépréciation alternatifs qui pourraient simplifier les tests de dépréciation est en cours à l'ISB. Alors, par ailleurs, dans son compte-rendu de sa consultation sur son futur agenda 2022-2026, l'ISB devrait ajouter 3 projets à son programme de travail, donc ça n'est que 3 en plus du programme de travail qui était déjà existant, et parmi une palette d'autres projets alternatifs, il y aurait 2 projets de recherche, l'un sur les actifs incorporels et l'autre sur le tableau de flux de trésorerie. Ces projets viseraient à développer de nouvelles normes. Les problématiques relatives aux crypto-actifs ou passifs seraient incluses dans le projet sur les actifs incorporels, donc pas un projet spécifique. Et puis, il y aurait par ailleurs un projet de maintenance sur les risques liés au climat, donc le sujet qu'on a évoqué antérieurement. Ce projet viserait à développer des amendements des normes IFRS existantes afin de maintenir une cohérence entre les différentes normes à ce sujet. Ce sera l'interconnexion entre le financier et le non-financier, entre l'ISB et l'ISSB. À noter que 2 projets seront potentiellement ajoutés à son programme de travail en fonction des ressources disponibles de l'ISB. Il s'agit d'un projet sur les secteurs opérationnels, donc une révision d'IFRS 8, et d'un projet sur les mécanismes de tarification des polluants. Nous passons maintenant à notre dernier thème, le reporting SF. Première application du règlement SF pour les émetteurs cotés est maintenant passée. De cette première expérience, on en a retenu 6 points d'enseignement. Le premier point, importance d'anticiper les travaux des commissaires aux comptes, revoir le mapping et réaliser un test blanc. Ça permet d'évacuer les aspects de jugement et de résoudre certains problèmes techniques en amont du dépôt. Deuxième point d'enseignement, c'est l'importance de planifier les interventions de chaque partie prenante. Le troisième point, toutes les erreurs ne sont pas égales, mais elles doivent toutes être examinées. Quatrième point, valider le rendu lisible du document. La conversion en XHTML peut impacter la mise en forme du document et valider les aspects human readable et pas seulement techniques est donc une étape clé. Tous les attributs d'une balise sont importants. La transcription technique nécessite une attention particulière. Attributs de date, d'échelle, de solde ou de calcul. Ces paramètres impactent l'exactitude et la validité du tagging. Et sixième et dernier point, l'importance de réaliser un test à blanc. La réalisation d'un dry run est clé dans le succès du dépôt. Ça permet d'anticiper certains travaux des auditeurs et de se tester en transmettant un premier document à l'AMF. Alors, quelles sont les perspectives? À partir du 1er janvier, ou depuis le 1er janvier 2022, l'ESEF intègre désormais une obligation de balisage en bloc des notes annexes. C'est la nouveauté 2022. Le règlement propose une liste de 244 tags obligatoires si l'information est présente dans les annexes. L'émetteur devra rechercher la balise ayant le sens comptable le plus proche, mais pourra considérer que, par exemple, 2 balises sont de pertinence équivalente et donc pourrait choisir un double balisage. C'est un exercice qui fait appel au jugement et nécessite d'être anticipé, tant sur les aspects de validation avec les auditeurs qu'avec les éditeurs pour tester les outils. Si vous anticipez des modifications importantes dans la structure de vos notes, il sera opportun d'attendre d'avoir une maquette aboutie. Et afin d'aider les émetteurs, le groupe de travail ESEF de XBRL France a proposé plusieurs pratiques communes, posant ainsi quelques grands principes. concernant ce macro-balisage. Alors, nous en avons terminé avec cette présentation. Avant de passer aux questions, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver dans nos publications aux éditions Francis Lefebvre sur notre site internet. Nous aurons également le plaisir de vous retrouver lors de notre prochaine arrêté, journée arrêtée des comptes 2022, en fait de nos journées arrêtées des comptes 2022, prévues comme chaque année en novembre. Les inscriptions seront ouvertes dans les jours à venir. Et cet événement sur l'arrêté des comptes complétera également tout un dispositif qui a déjà démarré concernant un certain nombre de WebEx relatifs au reporting de durabilité que vous pourrez suivre également. Concernant nos internes, juste un point administratif, le code atteinte est le 222S. Voilà. Alors, on va pouvoir maintenant passer à notre temps de questions-réponses. J'ai vu un certain nombre de questions. Il nous reste quelques minutes pour en traiter quelques-unes. Alors, il y a une première question qui est posée sur la décision de l'IFRIC relative au contrat de SaaS. Est-ce que c'est compatible avec les règles françaises? Alors, peut-être, Frédéric, peux-tu prendre cette question?
C'est peut-être un peu trop tôt pour répondre à cette question parce que c'est justement un sujet qui est en cours d'instruction du côté de l'ANC. Et donc, peut-être peut-on espérer prospectivement une certaine convergence entre les deux, mais c'est à voir, hein, il est trop tôt pour le dire. Par contre, ce qui semble assez probable, c'est qu'il n'y aura pas, enfin, il sera beaucoup plus difficile d'envisager en norme française de procéder à un changement rétrospectif, alors que la décision de l'IFRIC implique de faire un changement rétrospectif comme un changement de méthode comptable. Voilà, donc c'est on vous tiendra au courant des dénouements de ces discussions, on espère bien avant la clôture 2022, mais sans être devin, bien sûr.
Merci Frédéric. Alors toujours sur les contrats de SaaS, une question de scope de la décision de l'IFRIC. Frédéric, la question qui est posée, c'est est-ce que les PaaS et les IaaS sont concernés par la décision de l'IFRIC?
Alors, ils ne sont pas concernés par la dernière décision de l'IFRIC, celle de 2021, qui porte sur les applications, les applicatifs logiciels. Et la customisation configuration de ces applicatifs. On pourrait par contre considérer que la précédente décision de l'IFRIC de 2019, elle est, même si elle ne visait pas directement les contrats de IaaS ou de PaaS, il faut quand même se poser la question, il est pertinent de se poser le même genre de questions et d'avoir une approche cohérente sur l'ensemble des traitements. Et donc, sur le PaaS et l'IaaS, il faut aussi se poser la question de savoir si on contrôle un actif ou si on reçoit seulement un service d'accès. Et puis, s'il y a un contrat pour une infrastructure, une des questions notamment à se poser, c'est de savoir s'il faut identifier un lease sur l'infrastructure qui constituerait un actif identifiable ou pas. Et dernière remarque que je voudrais faire sur le PaaS, le PaaS est une plateforme qui permet de développer des applications logicielles et justement le coût de développement de ces applications logicielles, eh bien il se peut, il est concevable que ça qualifie comme une immobilisation incorporelle si ça répond aux conditions que j'évoquais tout à l'heure.
Merci Frédéric. Alors je vois dans la liste des questions une question concernant une des décisions de l'IFRIC, les dépôts à vue, est-ce que l'ESMA va revoir sa position sur le sujet à la lumière de la décision de l'IFRIC? Alors, bon, je pense que c'est une question qu'il faut poser à l'ESMA, mais ce que je comprends des décisions de l'ESMA, c'est un, ce qui est reporté, les décisions qui sont publiées ne sont pas, ça n'est pas de la normalisation. Hein. Autrement dit, c'est une décision d'enforcement qui est prise dans le contexte des normes existantes à la date à laquelle la décision est prise. Et l'ESMA fait ensuite une sélection de ces décisions d'enforcement et les publie. si la normalisation évolue ou une clarification est apportée, ce qui est le cas de la décision de l'IFRIC, ça n'emporte pas le conflit avec la décision de l'ESMA. Voilà. Pour autant, c'est vrai que ça peut être gênant, donc je ne sais pas ce que l'ESMA fera, mais en tout cas, c'est bien la décision de l'IFRIC qui trouve à s'appliquer. Il y a un certain nombre de questions que je vois qui portent sur que s'est-il dit à la réunion de l'IFRIC d'hier. Bon, là, je pense qu'il faudra attendre de voir les comptes rendus officiels pour en parler. D'autres questions qui ont été posées, mais en amont de points qu'on avait abordés ensuite, donc je ne les reprends pas. Et puis, je crois qu'on en a fait le tour. Et puis, il y avait une question, mais extrêmement spécifique, donc qui relève plus de la consultation. Et là, j'invite le participant à se rapprocher de son auditeur pour évoquer la question. Voilà. Je ne vois plus de. Je pense qu'on en a fait le tour. Il est. On a dépassé d'une minute l'horaire, mais je pense qu'on a à peu près tenu le calendrier. Je vous remercie beaucoup. Restez une seconde ensuite pour répondre. Il y a un petit questionnaire de satisfaction qui vous est posé. Si vous pouvez prendre quelques secondes pour y répondre. Je vous remercie beaucoup de votre participation et je remercie l'équipe qui s'est mobilisée pour l'animation. Et je vous souhaite une excellente après-midi.